musique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous, je suis là aujourd'hui avec Marie-Claude, la complice du toujours, et nous avons l'honneur de recevoir Christian Bikotova Batakyoka.
Oh, qu'est-ce que c'est bien dit.
Très, très bien dit.
Il nous vient du Congo RDC, et on va échanger avec lui, se faire connaître par les auditeurs, et évoquer la problématique pour laquelle il est là.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Et bonjour Jérémy.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà, comme ils le disent là, je m'appelle Christian Bikotova Batakyoka. Je viens de la RDC et je suis né dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le sud du Bukavu, dans la petite ville qu'on appelle Uvira. J'ai grandi là-bas, je fais mes écoles, mes études là-bas, mon école primaire et mon école secondaire. Et une partie de l'université. Après, comme la situation à l'époque du président Mobutu ne permettait pas de rester, et moi j'ai pris la destination de l'étranger et je me suis retrouvé à Djibouti, un très très petit pays dans l'est de l'Afrique. Et c'est un pays connu en France parce qu'il y a une base militaire française là-bas. Et là, j'y suis resté et j'étais un prof, j'enseignais dans des écoles privées djiboutiennes. Entre-temps, j'encadrais les enfants des militaires français parce que les enfants, ils étaient tous là à l'évêché. Je faisais partie de la communauté de l'église catholique à Djibouti. Et là, j'ai commencé le projet à venir poursuivre mes études en France et avec l'aide de mes amis français qui étaient là, les militaires surtout. On a commencé à chercher les inscriptions dans les différentes facultés de France et je suis tombé à Montpellier. Et je suis venu et voilà comment je suis là. Et à Montpellier, j'ai repris toutes mes études universitaires. Et moi qui ai une formation littéraire de base, et je voulais changer et je me suis inscrit en gestion et je fais la gestion. Première année, deuxième année, troisième année, donc licence et de gestion. Après, je suis allé en maîtrise où j'ai fait la maîtrise gestion des entreprises. Et en cinquième année, master 2, c'était maintenant à l'époque du master, et j'ai fait la gestion des ressources humaines. Alors, je me suis lancé en thèse, j'ai fait deux années de thèse. Après, je n'ai pas fini parce qu'il y a d'autres réalités. Et la thèse, si on ne la finance pas, ça devient compliqué.
Ah bon, voilà. Comme c'est bizarre.
Voilà. Et après, quand j'ai fini mes études, j'ai demandé à l'État français de rester en France parce que la situation sécuritaire chez moi ne me permettait pas de retourner. Et bien évidemment, ce n'est pas toute la République démocratique du Congo qui est touchée. Et à Kinshasa, les gens n'arrêtaient pas à me dire que vous pourriez aller rester à Kinshasa. Mais Kinshasa, moi, c'est pas chez moi, c'est à l'est, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ouais. Et c'est la région qui est vraiment, vraiment malmenée. Et du coup, les autorités françaises ont compris que je reste ici. Et c'est comme ça que je suis resté ici. J'ai commencé à travailler un tout petit peu. Après, j'ai créé ma petite entreprise spécialisée dans les services prêtés aux autres entreprises. Je travaille avec les agences immobilières. Je m'occupe de tout ce qui est rédaction des bails, des états de lieux, des appartements. Je fais visiter les appartements. Après, je fais signer des contrats de bail. Voilà ce que je fais. Et entre-temps, j'enseigne aussi. J'enseigne dans les écoles et catholiques et privées. Et des fois, quand j'ai le temps, j'enseigne le cours de gestion, de comptabilité, tout ce qui relève de mon domaine de gestion. Voilà. Et voilà ce qui est de ma vie ici.
Bon, alors là, on a une vaste présentation de Monsieur Christian Batakyoka.
Qui vient de loin.
Qui vient de très loin, on comprend.
Et qui est à côté de nous.
On l'a laissé parler parce qu'effectivement, il avait beaucoup à dire. Et puis, quand on vient de si loin, il est honorable d'avoir fait ce parcours-là, d'avoir fait des études. Et on comprend pourquoi les autorités françaises ont eu raison de vous accorder de rester ici. La preuve, vous avez créé une entreprise, vous dispensez des cours quand vous avez le temps. Marie-Claude, si tout le monde pouvait être comme ça.
Oui, ben écoutez, moi, c'est vraiment intéressant. C'est toujours passionnant de voir la trajectoire des gens, et là, particulièrement des Africains, puisque c'est souvent des Africains que nous recevons, ou des gens qui ont beaucoup à faire avec l'Afrique, ou beaucoup fait avec l'Afrique. Et je dois dire que moi, ce qui m'étonne toujours dans ces récits-là, c'est pas la première fois qu'on entend ça, Jérémy. C'est des gens qui changent tout à coup. Ils font, par exemple, là, nous étions avec un littéraire qui, tout à coup, est devenu un gestionnaire. Et je trouve ça formidable de pouvoir changer de casquette, changer d'orientation et de pouvoir s'y consacrer. Et même, si on a bien entendu, de pouvoir même créer sa propre entreprise. Hein? Donc, Christian, c'est quand même un sacré parcours.
Hein? C'est un sacré parcours.
Oui, en venant quand même d'un endroit pas idyllique.
Oui.
On va en parler.
Hein? Oui, d'accord.
Tout à fait.
Bon, là, on propose de parler dans la première partie de l'émission de votre entreprise qui vous fait vivre. Et puis après, dans un second temps, on va aborder l'histoire de...
Problème plus grave.
Un problème beaucoup plus touchant.
Ouais.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter, même si vous l'avez entamé déjà, nous présenter l'entreprise depuis quand elle a été créée, comment ça évolue, ça se passe comment avec vos clients?
Voilà. Mon entreprise a 5 années d'existence.
D'accord.
Comme je suis spécialisé dans les services portés aux autres entreprises, mes clients à moi, c'est des entreprises, les agences immobilières surtout. Alors, c'est les domaines dans lesquels les entreprises ont un certain nombre d'activités qu'ils ne veulent pas faire ou ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps. Et par exemple, se mettre à rédiger les bails ou aller faire des tours dans les appartements pour rédiger les états de lieux et faire rentrer les locataires et le faire partir. Ça, ils n'ont vraiment pas le temps surtout de ça. Et du coup, moi, je suis sollicité pour faire ça. Ça, c'est la première casquette de mon entreprise. La deuxième casquette, c'est la rénovation. Et il arrive des fois où les locataires partant a complètement détruit l'appartement. Et l'agence immobilière ne peut pas louer cet appartement s'il n'est pas remis en état. Alors du coup, mon confrère me dit, écoutez, occupez-vous de ça aussi et essayons de voir si on peut remettre l'appartement en état d'être loué. À ce moment-là, moi, j'ai toute une liste et toute une gamme d'artisans. Et moi, je contacte mes artisans, les plombiers, les électriciens, les peintres. Voilà, ils me présentent leur devis. Alors moi, j'essaie de regrouper ces devis. Je sors mon devis à moi maintenant, que je présente maintenant aux propriétaires. Puisque les agences, elles gèrent les appartements qui ne leur appartiennent pas. Il y a des propriétaires. Mais à ce moment-là, on présente aux propriétaires. Le propriétaire dit, d'accord, faites-moi ça. À ce moment-là, je fais appel maintenant à ces entreprises. Je dis, écoutez, vos devis sont acceptés, venez. Et moi, ils travaillent. Il travaille. Et dès que l'appartement est bien et on peut le louer, à ce moment-là, moi, maintenant, je prends les photos, tout ça, je balance sur les nets, et voilà, et j'ai des coups de fil de gauche à droite, et je vais faire visiter. Et dès qu'il y a quelqu'un qui accepte maintenant à prendre l'appartement, je lui fais signer les bails et tous les rapports que je fais, et voilà, je rédige tout, et puis je dépose ça à l'agence immobilière. C'est ça, maintenant, les tâches que moi, je facture. Et moi, je suis payé pour ça.
D'accord.
En fait, tu es payé en bout de compte, quoi, en fait.
Voilà.
Il faut qu'il y ait un locataire qui arrive. Oui, c'est un peu long. Mais bon, c'est un peu le milieu qui veut ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'à Montpellier, la location, enfin les appartements vides, il n'y en a pas beaucoup. Montpellier accueille suffisamment de nouveaux habitants. Donc, c'est pour dire que vous avez du travail, beaucoup de travail.
Oui. Le travail, je peux vraiment dire qu'il y en a. Il y en a, et sauf que je m'occupe de la partie en risque. Parce que surtout au moment de l'état des lieux de sortie, vous avez les locataires qui ont cassé et tout, et ils veulent récupérer leur caution, par exemple. Moi, j'ai dit, ça ne fait pas marcher, les gars, vous avez cassé ça, on va attendre. Ah non, c'est pas ça. Voilà, c'est un conflit. Et il faut vraiment avoir un esprit calme pour gérer ce tempérament et arriver à la solution. C'est ça la partie risquée de mon activité. Sinon, le reste, ça va, c'est de l'humain. Et à un certain moment, on comprend les choses, voilà, et ça se passe souvent bien.
D'accord.
Donc la partie un peu pacificatrice, médiatrice, c'est un petit peu ton entreprise qui l'a fait ou toi-même qui l'a fait.
Ouais, moi-même qui l'ai fait, voilà, on peut dire ça.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire, je ne sais pas Jérémy, est-ce qu'on pourrait dire que quand même la sagesse africaine, elle intervient là-dedans, qu'il n'y a pas le côté chaud bouillant un peu des, du blanc des fois?
Non, moi, je peux confirmer que la sagesse africaine intervient là-dedans.
D'accord, donc c'est ça, c'est bien ça.
Tout à fait.
Et on en a, Dieu sait qu'on en a besoin hein, quand on voit les, on entend les conflits. Et donc, comment tu es recruté par les, enfin, comment tu es contacté par les, justement, par les agences immobilières, comment ils ont ton numéro, ton contact?
Voilà, là, en fait, ça c'est, je suis parti dès le départ, c'est des anciennes relations. Mm. Quand j'étais à la fac, quand on étudiait encore, lorsque je devrais faire un stage, je suis allé faire un stage dans une agence immobilière, et c'est une 21.
C'est une 21, oui.
Voilà, et là... ils ont aimé ma façon de travailler. Mmh. Et quand j'ai fini mon stage, je suis parti. Après, à l'obtention de mon diplôme, il fallait maintenant commencer à chercher un travail. Comme je ne trouvais pas, et je suis allé leur dire, écoutez, moi, je vous propose ça. Mmh. Vous me connaissez déjà, je fais un stage ici. Je vous propose de faire ça, de faire ça. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, oui, ça nous intéresse. Et j'ai commencé d'abord à travailler avec Century 21. Mmh. Et après, à travers ça, et mon nom est parti à d'autres agences immobilières. Et voilà, et puis j'en ai eu d'autres, ils ont commencé à m'appeler, et je suis parti, et c'est comme ça que j'ai eu toute une gamme d'agences immobilières qui ont sollicité mes services.
Voilà. D'accord, donc d'un stage, nous partons d'un stage où il y a une reconnaissance de qualité, et du coup, poum poum, mais après tout, on n'a plus besoin de prospecter.
Non, mais tout mène à tout.
Tout mène à tout, quoi, voilà, ouais, donc c'est bien. C'est une bonne chose. Et le nom de cette entreprise, c'est?
Alors, mon entreprise, de ton entreprise, mon entreprise porte le nom de, mon nom, ça s'appelle... Biko, toi, Christian Batachoka, métier et service. Voilà. On peut me contacter. C'est sur mon numéro personnel. Je fais pas de fixe. Mm-hmm. Maintenant, le téléphone portable fait tout. Mm-hmm. Voilà. Et mon numéro, si je peux le dire ici à l'antenne,
oui,
c'est 07 59 59 43 22.
Alors, 07. 07, 59,
59,
43,
22.
22, voilà. Ouais. Donc ça, c'est le patron. Hein, c'est
alors,
voilà.
petite question. Est-ce que dans ton métier, c'est des appartements haut de gamme, des maisons ou un peu de tout?
C'est quoi ta spécificité? C'est un peu du tout. Il faut savoir que Century 21, c'est une agence qui a une bonne réputation. Mmh. D'après ce que moi j'ai vu. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et les appartements que gère l'agence, c'est des appartements vraiment de haute gamme.
Mmh.
Et souvent, et des fois même, c'est des familles. Je fais face des fois à des appartements à 3, 4, 5 chambres même, c'est des familles qui sont là. Alors, ces genres d'appartements qui sont loués par des familles, souvent au départ de la famille, il y a beaucoup de problèmes parce que les enfants, ils cassent certaines choses et voilà, il faut réparer tout ça, tout ça. Après, on a aussi des appartements, par exemple une chambre salon, ce qu'on appelle les F2, et voilà, ça aussi on les a. Et on a aussi des studios pour les étudiants, ça aussi, c'est une 21, j'ai réussi. Et donc, c'est un ensemble de tout. Mmh. Voilà. Et dans des quartiers différents. Mmh. Il y a des bons quartiers, et en partant aussi des quartiers, des cités comme la Payade. Voilà, on a aussi des appartements là-bas.
Donc, en gros, on fait des prestations haut de gamme, si j'ai bien dit.
En gros, on peut dire que c'est des haut de gamme.
Voilà. Haut de gamme, d'accord. Okay.
Donc, on a fait le tour de l'immobilier.
Ben voilà, on fait tout l'immobilier. Je propose qu'on fasse une pause
musicale.
Oui,
bonne proposition. Bien. Donc, Christian, c'est.
Le premier morceau que tu as choisi.
Alors, j'ai choisi une chanson intitulée « Eau bénite ». C'est une chanson intitulée par un artiste qui nous a fait rêver, qui nous a fait danser en RDC, qui s'appelle Madilou System.
Madilou System, voilà.
Alors, c'est parti pour Madilou System.
D'accord.
Sanguifumba, il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer.
malamo bebie na pesa yo liberté o sakana na boy mi sonanga etala eloko eloko eko bunga lo bio mama na yo yo na komine kozonga na sangu kwa makambo na moto na longoli zua pasyon cecilie na pesa bino permiso bobalana soki mwana aligi kosimba moto otika ye asimba moko la kozika koyeba lobi lisusu na kutaki yo na ye kwa desu ekopi na monoko So talino kiti selungi Oyo kisoni obani sekolela Tika ipukrizio zalina morte mamoko Menge nilio kolinga biso mibale oko tianga wapi
Voici de retour avec notre invité, M. Christian Bakachoka et Marie-Claude, toujours là.
Oui, je suis là encore. Oui.
Alors, cette fois-ci, la seconde partie de l'émission sera consacrée à son pays d'origine, à sa région natale. Est-ce que vous pouvez nous situer topographiquement d'où vous venez depuis la RDC?
Moi, je viens de la ville d'Uvira. La ville d'Uvira se trouve dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le Kivu. Le Kivu est grand. Et le Kivu est divisé en trois parties. Nous avons le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Et moi, je viens du Sud Kivu. Et toute la région du Kivu, donc le Grand Kivu, est en situation d'insécurité. C'est là où se trouve la guerre que le Congo subit depuis une trentaine d'années.
Oui, même plus.
Même plus. Ouais, ouais. Ouais. Et toutes ces morts-là qu'on a enregistrées, et c'est là-bas, c'est dans le Kivu. Il y en a eu d'autres régions qui ont été touchées, mais c'est spécialement la région du Kivu. Alors, le Sud Kivu fait frontière avec la République du Rwanda, et du Burundi. Et comme on le sait très bien, et s'il y a la guerre au Kivu, c'est parce qu'il y a des agresseurs. Et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, l'État congolais donc, dénonce le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda d'être agresseurs de la République démocratique du Congo. Alors, il y a eu beaucoup de morts dans ce pays, et de façon que si la guerre s'arrêtait, les gens se diraient, maintenant on tourne la page, hein, on essaie de reconstruire maintenant notre pays. Mais le problème c'est que cette guerre ne s'arrête pas. À l'heure où je vous parle là, on compte les morts. Les gens continuent à être tués, surtout dans le Nord Kivu. la région, la Goma, c'est la capitale de la région du Nord Kivu, qui est devenue un théâtre des morts.
Mm-hmm. Si on devait vous demander, qu'est-ce qui a provoqué cette guerre ? C'est quoi la... Ça vient d'où ? Pourquoi cette guerre ?
Voilà. Pour comprendre les malheurs que vivent les Congolais aujourd'hui, mm-hmm. il faut remonter le temps. Remonter la machine du temps. Mm-hmm. Le malheur du Congo commence en 1994. Le génocide du Rwanda.
Voilà.
Vous savez, au Rwanda, il y a trois ethnies. Mm-hmm. Les Hutus, les Tutsi et les Twa. Mm. Les deux premiers, Hutus et Tutsi, c'est des ethnies qui se sont combattues depuis toujours.
Rivales, oui.
Ils sont vraiment rivales. Mm. Et les Hutus représentent 85% de la population, mm. et les Tutsi ne représentent que 14%. Mm. Les 1%, c'est pour les pygmées là qu'ils appellent Twa, mm. T-W-A. Alors, la révolution sociale du Rwanda de 1959 a fait partir la partie minoritaire, les Tutsis. Parce que quand ils se sont combattus, quand ils se sont battus en 1959 par différence numérique, vous comprenez que 85% de la population face à 15%, 15% ne peut pas résister, ça c'est normal. Et les 15%, ces 15% qui représentent les Tutsis, ils sont partis à l'étranger. Certains en Ouganda, les autres au Burundi, mais la grande majorité... en République démocratique du Congo. Alors, lorsque ceux qui sont partis à l'étranger, donc la diaspora Tutsi, se sont organisés pour revenir chez eux au Rwanda militairement, ils ont fait face à une résistance de l'armée rwandaise. Et quand ils sont rentrés au Rwanda, il y a eu des morts et des morts. C'est le génocide des Tutsi de 1994. Alors, quand ils sont arrivés à Kigali, ils ont renversé le gouvernement du Rwanda et l'armée défaite s'est retrouvée en exil au Congo, en République démocratique du Congo. Et au pouvoir à Kigali, la nouvelle armée maintenant a demandé à l'État congolais de rapatrier les Rwandais qui étaient dans le cas des réfugiés en République démocratique du Congo. Mm-hmm. Mais comme à l'époque, M. Mobutu ne pouvait pas rapatrier ces gens-là, parce que pour lui, c'est la population qui a été au Rwanda depuis toujours et qu'il y avait de bonnes relations entre la République, les Zaïre à l'époque et le Rwanda. Mmh. Mobutu avait refusé de rapatrier ces Rwandais. Monsieur Kagame, qui est l'actuel président du Rwanda, avait demandé par force de rapatrier ces gens-là. Mobutu avait refusé et Monsieur Kagame a dit « Comment vous ne voulez pas les ramener ? Moi, je veux venir les chercher, celles. » Et en 1997, l'armée rwandaise traverse la frontière pour aller chercher les génocidaires qui étaient mélangés avec les réfugiés qui sont partis au Congo. Mais en fait, pour M. Kagame, ce n'était pas seulement ramener les génocidaires. Il y a derrière ça une idée, un agenda caché. Donc pour lui, c'était les richesses congolaises qui l'intéressaient.
Bien sûr, on y vient.
Voilà. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au Congo. Et depuis 1997, l'armée rwandaise n'est plus retournée au Rwanda.
Donc, en fait, là, c'est une armée d'occupation.
Voilà, c'est pour cette raison qu'on a toujours dit que le Congo est occupé. Mmh. Voilà. Maintenant, ces morts-là, qui tue au Congo ? C'est ça la question qui se pose pour le moment. Moi, je ne peux pas confirmer que l'armée rwandaise tue le Congolais. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu. Mais ce que je sais avec précision, parce que c'est documenté partout, c'est les groupes armés qui font cette terreur en République démocratique du Congo. Et parmi ces groupes armés, il y a un groupe armé très virulent, parce que soutenu et formé et financé par les pays étrangers, c'est le fameux groupe armé qu'on appelle M23. Mm. Derrière M23, il y a le Rwanda. Et c'est pour cette raison qu'on dit que c'est le Rwanda qui tue les gens au Congo, parce que le groupe armé qui tue est financé, entraîné, et voilà, par le Rwanda.
Par le Rwanda, voilà. D'accord. Bon, on a parlé, on y a fait allusion, justement, on parlait, il faut quand même dire que le Congo, au Congo, il y a des mines, c'est très riche, et que du coup, ça excite la convoitise des pays voisins, et dont le Rwanda, le Burundi, et... D'accord, d'accord.
Ça, c'est tout à fait d'accord, c'est documenté même.
Oui.
Et pour illustrer ça, la première guerre au Congo, 1997, lorsque l'armée rwandaise traverse la frontière pour aller en République démocratique du Congo, pendant cette guerre, on a vu des firmes américaines, là au Congo, en train de signer des contrats miniers. Pendant qu'on est en guerre et ils sont en train de signer les contrats miniers. Et donc, derrière les Rwandais aussi, il y a des firmes internationales qui sont en train d'exploiter le Congo. Donc, c'est les minéraux congolais qui intéressent et le Rwanda. Et derrière le Rwanda, on a maintenant...
Si je comprends bien, parce que ce que tu nous dis, le conflit 59, c'est les Rwanda fait partie en exil, une partie des minoritaires en RDC, et puis on arrive 94, on demande à Mobutu de rapatrier les gens, ils ne veulent pas. Mais à mon avis, est-ce que tu penses que si Mobutu avait accepté de les rapatrier, est-ce que la guerre aurait pu être évitée selon toi?
Ça, c'est un prétexte seulement du Rwanda. Et le Rwanda, en demandant ça, il y avait derrière ça une autre idée. Et parce qu'en fait, figurez-vous que M. Kagame n'évoque pas seulement cette raison sécuritaire. M. Kagame a une autre raison. Il dit que la conférence, il remonte le temps, la conférence de Berlin de 1885, le moment de partage des postes de frontières dans le continent africain. Une partie du Rwanda a été annexée au Congo. Et il revient maintenant à l'actuel gouvernement rwandais d'aller reprendre cette partie. Donc, si même Mobutu aurait accepté que ces gens-là soient rapatriés au Rwanda, M. Kagame évoquerait une autre raison. Donc, M. Kagame a son objectif, qui est un objectif complètement expansionniste. Il veut tout simplement s'accaparer de certains territoires. Donc, la première raison, c'est la sécurité. Et la deuxième raison, c'est les territoires. Il veut conquérir les territoires qui se trouvent, les territoires congolais qui ne sont pas des Rwandais. Alors, admettons aujourd'hui que la conférence de Berlin a fait des erreurs. Ça existe partout. Mm-hmm. En Afrique du Sud, il y a un conflit entre le Zimbabwe et je ne sais pas quelques pays là. Entre les Kenyans et la Somalie, il y a aussi ces problèmes de frontières. Mm. Tout ça, c'est les erreurs de la conférence de Berlin. Alors, on peut accepter que la conférence de Berlin avait fait des erreurs. Mais il y a l'Union européenne a voté une loi intitulée « L'intangibilité des frontières issues de la colonisation ». Il a dit que cette loi dit que toutes les frontières issues de la colonisation et donc des confins de Berlin ne peuvent pas être changées. Parce que si on modifie cette frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et les Kenyans aussi vont demander, mais nous aussi ça. Et l'Afrique, ça, c'est, pour les Africains, les machettes vont commencer à sortir encore. Oui. Et donc, pour éviter tout cela, on laisse les frontières telles qu'elles sont depuis la colonisation et donc la conférence de Berlin. Mais M. Kagame ne se limite seulement pas là. Il dit qu'au Congo, il y a une population qu'on appelle la population rwandophone. C'est une population congolaise mais qui parle la langue rwandaise. Mais cette population, elle est congolaise. Et M. Kagame estime que cette population est marginalisée au Congo. Et donc, il faut aller aider cette population parce que c'est une population rwandophone et donc c'est des Rwandais, mais qui habitent au Congo. Il faut aller les aider. Du coup, il faut les armer. C'est comme ça que l'armée, les gouvernements rwandais arment le M23 pour résister, pour faire face à l'armée congolaise. Et donc, Kagame a plusieurs raisons de rester au Congo.
Mais ce qui est assez curieux dans cette affaire, c'est qu'avant Kagame, il y a bien eu un président qui est mort.
Abiyarimana.
Est-ce que celui-ci avait tenté, d'une manière ou d'une autre, le rapatriement de cette minorité qui se retrouve au Congo?
Alors, M. Abiyarimana est resté au pouvoir au Rwanda plus de 20 ans. Et pendant tout le règne d'Abiyarimana, il n'y a jamais eu la moindre revendication. De toute façon, Mobutu était l'ami proche d'Abiyarimana. Et donc, Mobutu qui était aussi proche de la France, donc la France était proche d'Abiyarimana, toutes ces histoires n'ont jamais existé. Il y a la République, à l'époque, le Zaïre, actuellement République démocratique du Congo, et le Rwanda et le Burundi étaient dans une organisation qu'on appelait la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Et le CPGL prenait la paix entre les pays membres. Et Mobutu même était le plus grand financier de ce PGL, parce que le Rwanda n'avait pas suffisamment de richesses, mm-hmm. et le Burundi, et c'est qu'on connaît avec précision que Mobutu donnait une part considérable et, comme cotisation à l'organisation. Mm-hmm. Et pendant tous les règnes de Mobutu, déjà nous au Congo, on n'a pas connu la guerre. Moi, je suis né et grandi dans un pays de paix. Mm-hmm. Et la guerre a commencé en 1997, mm-hmm. et c'est là jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Pendant ces périodes, il n'y a jamais eu de guerre. Mm-hmm.
Est-ce que, d'accord. avec le recul aujourd'hui, bon, Kagame est encore là, comment tu vois dans les années à venir l'issue de ce conflit-là, selon toi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce conflit prenne fin?
Alors, c'est une question très difficile.
Moi, je pense qu'on y consacrera une émission entière. Déjà, je suis pas sûr. Oui, non, mais c'est une bonne question.
C'est une très bonne question. On peut déjà. On peut déjà.
Des pistes.
Ouais, on peut déjà donner quelques pistes.
Oui, tout à fait.
Moi, je pense que le Rwanda aujourd'hui est dirigé par un président qui est vraiment, vraiment. Est difficile à cerner, pour ne pas dire, voilà, je ne sais pas. Mais il faudra que le Rwanda arrête de financer les groupes armés au Congo. Si on arrive déjà à ça, c'est un pas déjà vers la paix. Mm-hmm. Parce que figurez-vous que le Rwanda aussi a accusé le Congo d'entretenir une rébellion qui attaque le Rwanda. Mais il n'y a pas eu un seul rebelle qui est venu du Congo pour aller semer les désordres du Rwanda.
Par contre, les gens sont massacrés au Congo, ça c'est connu.
Par contre, les gens sont massacrés au Congo, c'est très connu. Donc, si les groupes armés, et surtout le M23, n'est pas soutenu par le Rwanda, je pense que c'est le chemin vers la paix.
Bon. Donc, Jérémy, nous avons une première réponse.
Première réponse, mais à mon avis, au-delà du M23, tu as si bien dit au début que derrière tout ça, il y a des multinationales. Mm-hmm. Donc, si demain,
tout à fait,
par extraordinaire, le M23 devait arrêter, ça voudrait dire couper le robinet aux multinationales. Sont-elles prêtes ? Peut-être faudrait envisager une conférence internationale pour la paix. Mm-hmm. Rapidement, parce qu'on va bientôt. Ouais.
Voilà, rapidement, en tout cas, une conférence internationale impliquant tous les partis en conflit est vraiment, vraiment indispensable.
Mmh. Absolument.
Okay. Et vraiment, pour que chacun s'exprime. Mmh. Il faut qu'il y ait un dirigeant qui puisse organiser ou diriger cette conférence qui soit étranger à ces trois pays, Rwanda, Burundi, Congo et Ouganda. Voilà.
D'accord, merci.
D'accord, donc moi je pense que ce n'est pas inutile, effectivement, vu l'ampleur et vu le silence autour de ces massacres qui continuent. C'est scandaleux. C'est, voilà, c'est pour ça que c'était important aussi que Christian vienne en parler. Hein. Et puis on peut conseiller aux gens d'aller voir, de regarder s'ils peuvent le trouver, l'Empire du silence. Ouais. Hein, de, comment il s'appelle c'est un Belge qui a...
C'est un Belge.
Oui. L'Empire du silence, donc, qui est quand même un film qui explique pas mal avec des documents d'époque, etc. Ouais. Voilà. Et on va le revoir, donc, n'est-ce pas ?
On le reverra. Amis auditeurs, voilà, on a reçu Christian.
Merci, Christian, d'être venu. Et à la semaine prochaine, alors.
À bientôt,
alors,
à tous.
Au revoir.
Merci.
Sangui Pumba.